La revue de presse, on y vient. Bonjour Marion Lagardère.
Bonjour Laetitia et bonjour à tous. On vient de l'évoquer, c'est le jour du dépassement. Ce samedi, nous dit Le Parisien, l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre produit en une année. Et cela, 3 semaines plus tard que l'an dernier. C'est le calcul fait par l'ONG Global Footprint Network qui mesure la consommation planétaire depuis 2003. Premier recul en 17 ans, 24 jours gagnés par rapport à l'an passé. Mais la planète se porte-t-elle vraiment mieux, demande Le Parisien. Est-ce une bonne nouvelle? Eh bien non, répond le WWF. C'est un trompe-l'œil, c'est l'effet Covid qui a mis à l'arrêt les voitures diesel et les industries polluantes, mais force est de constater qu'elles n'ont pas disparu. Et pour comprendre, l'ONG donne cette image. Il faudrait 1,6 planète Terre pour satisfaire la consommation mondiale. Le Parisien, dont l'infographie nous montre que ce jour du dépassement n'est qu'une moyenne, puisque les pays riches ont tous dépassé la date depuis longtemps. Les États-Unis depuis le 14 mars, l'Allemagne le 3 mai, l'Italie et la France depuis le 14 mai. Si tout le monde vivait et consommait comme nous, Français, il faudrait 2,7 planètes Terre. Le Huffington Post parle donc de fuite en avant et la Voix du Nord souligne que la route vers la transition écologique est encore longue et polluée, car à l'heure où les plans de relance nationaux se dessinent, écrit Olivier Berger dans son édito, le ton n'est pas à la rupture ni à la décroissance. Or, on ne peut pas souhaiter à l'humanité d'enchaîner les virus et les catastrophes pour ralentir. Alors, que faire? Eh bien, on peut trouver quelques pistes de réflexion et d'action dans le hors-série de Philosophie Magazine sur le réchauffement climatique, des pistes éthiques, politiques et métaphysiques pour tout changer, à lire notamment un entretien avec le créateur du concept de collapsologie, Pablo Servigne, qui appelle à rompre avec notre représentation du monde, de la nature et du pouvoir. Pour réduire notre empreinte, les riches devront abaisser leur niveau de vie, et cela inclut les classes moyennes, dit-il. C'est inévitable, et de pointer ce qu'il appelle un malentendu. Beaucoup de gens croient que le programme décroissance est de tout faire décroître, mais pas du tout, dit-il. Il s'agit juste du PIB. Voilà. Pour le reste, il faut plus de liens, plus d'amour, plus de bonheur, plus de sens. Voilà, amour et réchauffement climatique, c'est à méditer dans le hors-série de Philosophie Magazine.
Et pour le reste, Marion, ce qui fait toujours la une de nos journaux, c'est l'épidémie de Covid.
Et oui, vu sous des angles très divers, hein, au-delà des masques, des tests et des cas positifs en augmentation, on peut citer le dossier du Figaro sur le monde du spectacle qui veut tourner la page du coronavirus pour alléger les contraintes qui empêchent les artistes de remonter sur scène. La balle, écrit le journal, est dans le camp de l'Élysée. Autre angle plus surprenant dans La Croix Hebdo, patron chrétien, leur éthique pour traverser la crise. Et oui, où l'on peut lire que Elisabeth Ducoté, patronne du groupe Tuan, a fait le choix du jour au lendemain de licencier ses 100 employés basés aux États-Unis. C'était ça, dit-elle, où l'on risquait de voir couler tout le groupe. Bon, quelle différence, me direz-vous, avec un patron non-croyant? Eh bien, c'est qu'elle puise sa détermination, nous dit La Croix, dans la devise maintes fois répétée par un prêtre: protéger l'intérêt du plus grand nombre. C'est l'un de mes grands critères d'arbitrage, dit cette patronne, qui espère reprendre l'immense majorité de ses salariés licenciés. Problématique brûlante pour les entrepreneurs catholiques. Cas de conscience analysé dans La Croix Hebdo.
Et puis le journal Le Monde parle aussi du Covid, oui, et nous emmène au Mexique.
Puisque là-bas, 73% des personnes décédées du coronavirus étaient atteintes d'une maladie chronique provoquée par le surpoids, malbouffe et Covid-19. Le cocktail mortel mexicain, c'est ce que nous raconte le journaliste Frédéric Saliba, correspondant au Mexique, troisième pays le plus touché par le virus, avec près de 60 000 mort, une épidémie qui en révèle une autre. Plus de 7 adultes sur 10 sont gros ou obèses, résultat de ce qu'on appelle là-bas la coca-colonisation. Les Mexicains comptent parmi les premiers consommateurs de soda au monde, avec 163 litres annuels par personne du venin embouteillé, dénonce Hugo López-Gatell, sous-secrétaire d'État à la Santé. Notre alimentation, dit-il, est envahie par les produits ultra-transformés qui ont une forte concentration en sel, sucre et graisse. Et les chiffres sont vertigineux. 34% des enfants de moins de 11 ans sont en surpoids, 35% pour les adolescents. Le diabète, lui, frappe plus de 10% des adultes. De quoi expliquer pourquoi 42% des malades morts du Covid ont entre 18 et 59 ans. Un article passionnant qui raconte l'omniprésence des enseignes McDo et Starbucks jusque dans les lieux les plus reculés. Les logos écrits en maya pour séduire les communautés indigènes, un fléau qui date, Laetitia, des années 90 et de l'entrée en vigueur du traité de libre-échange entre le Mexique et les États-Unis. Décryptage à lire donc dans Le Monde.
Et enfin, l'autre titre, Marion, qui échauffe les esprits, c'est l'affaire de l'interdiction à Marseille du port du maillot du PSG, publié donc puis retiré.
Et oui, le Parisien propose les coulisses d'un rétropédalage. Libération raconte comment la police veut éviter les débordements. Et le quotidien marseillais La Provence titre en une, maillot du PSG. Quel pastis, oui, quelle bouillabaisse, c'était moins accrocheur. Mais qu'importe la forme, sur le fond, la liberté, écrit Philippe Schmitt dans son édito, la liberté permet à chacun de s'habiller comme il veut. Et l'égalité exige de ne pas faire de différence entre citoyens. Sinon, où irons-nous ? Faudrait-il demain bannir de nos rues les maillots de Saint-Étienne, de Lyon, de l'Algérie, puis, pendant qu'on y est, proscrire un jour de vive tension le port d'un signe religieux ou de vêtements traditionnels. Mettre le doigt là-dedans, dit-il, c'est jouer avec une allumette au-dessus d'un baril de poudre. Et pourtant, les arrêtés préfectoraux interdisant les maillots, les écharpes, c'est quasiment tous les week-ends, explique un supporter de l'OM dans l'équipe. Presque tous les week-ends, et pour tous les clubs, dit-il, appelant à combattre et dénoncer toutes les mesures liberticides, pas seulement celles qui aujourd'hui concernent le PSG. Effectivement, résume le journal, depuis l'adoption de la loi sur la sécurité intérieure en 2011, les interdictions de déplacement sont devenues banales dans le foot français, comme c'est le cas d'ailleurs pour les fans de Sochaux, aujourd'hui même à Auxerre, où les deux clubs s'affrontent ce soir en Ligue 2. Et oui, on s'en émeut peu, mais voilà, loin de la lumière de la Ligue des Champions, écrit Vincent Garcia, à Auxerre, porter le maillot du FC Sochaux ce samedi ne sera pas autorisé. Allez, liberté, égalité, pensée pour les supporters de Sochaux, et bonne reprise quand même.
Pour le championnat de football, bah voilà, on y est. Merci Marion Lagardère.